Allez, on lance le générique. Lundi 18 mai 2020, 18h30, c'est l'heure de votre Facebook Live Exilium. Aujourd'hui, c'est la 19e session de lecture. Je vous remercie de continuer à m'écouter, d'être fidèle au poste, que vous écoutiez ce live en direct ou alors que vous l'écoutiez en rediffusion à tout moment de la journée. Donc merci d'être ici. On entame aujourd'hui le 11e chapitre, qui n'est pas un petit chapitre, il va être divisé en 4 parties. 4 parties qui seront intégralement consacrées à la discussion entre notre personnage principal Frédéric et l'abbé venu d'Allemagne, l'abbaye de Mariawald, venu spécialement apporter un lot d'éclaircissements à Frédéric concernant l'univers très mystérieux, très secret d'Exilium. Donc pendant 4 jours, l'abbé sera avec nous, la discussion sera bien corsée, bien solide, très respectueuse, mais vous verrez que l'univers d'Exilium a beaucoup de choses à nous apprendre. Je vais maintenant commencer par le résumé de la lecture précédente, hein, puisque la dernière c'était vendredi soir, donc depuis il s'est passé plein de choses, vous avez déjà préparé... certainement vous avez passé un bon week-end parce que c'était le premier week-end de déconfinement, donc on se sort plein de trucs de l'esprit. Alors on se remet dans le bain, moi bah écoutez le rituel, je chausse mes super lunettes et on passe de suite à la lecture de cette première partie du chapitre 11. Allez c'est parti, puis on se retrouve tout à l'heure et je fais un coucou à Mélanie également que je viens de voir arriver. Allez, à tout à l'heure. Exilium, livre 1, chapitre 11. Samedi, Noir Lac. Jiddu Krishnamurti, un philosophe indien, disait « La peur bloque la compréhension intelligente de la vie. » Douze minutes d'avance. Oh, je ne vous ai pas lu le résumé, je suis stupide. Résumé de la lecture précédente, excusez-moi, je suis allé trop vite en besogne. En ce vendredi matin, Frédéric prend congé de Guilhem et Kevin, occupés avec leurs valises pour attraper le train de midi. Dans la cour, il croise Lewis, venu voir ses camarades, qui lui avoue être aujourd'hui soulagé et heureux depuis qu'il est passé sous l'autorité d'un nouveau meneur. Lorsque Frédéric retourne voir comme prévu le proviseur pour l'informer de son départ, la discussion prend un tour dramatique lorsqu'il apprend que le chef d'établissement avait, et a toujours, le projet de soudoyer de jeunes légatis à dessein de faire régner l'ordre par la terreur chez les lycéens indisciplinés. La discussion se termine brutalement. Sur le chemin du retour, Frédéric a l'idée d'appeler l'abbaye de Noirlac pour s'assurer qu'il est bien attendu par l'abbé venu tout spécialement d'Allemagne, et ce qui est le cas. Rendez-vous le lendemain samedi à 13h. Donc chapitre 11, samedi, Noirlac, nous y voilà. 12 minutes d'avance, moteur coupé. Entre Mathilde qui m'avait encouragé à ne pas faire répéter l'abbé, mais Johanna à ne pas le faire attendre, je compris que je n'avais pas intérêt à me distinguer pour ce premier rendez-vous. Bon, j'étais déjà à l'heure. Les 4 kilomètres qui séparent Saint-Amand-Montrond de l'abbaye de Noirlac, érigée il y a quelques 800 ans dans la campagne de Bruère-Alichamps, avaient été avalés cul-sec. Je n'avais croisé personne sur la route. Sur les bas-côtés ombragés subsistaient quelques empreintes d'un blanc lumineux, indices qui témoignaient d'une tempête de neige dont le souvenir s'estomperait au fil des saisons. Je restais toutefois un des rares qu'elle aura marqué de façon plutôt durable. 500 mètres après avoir quitté la départementale qui menait à Bourges et m'être engagé sur une route de campagne, je redécouvris cette illustre abbaye cistercienne de Noirlac. Une perle architecturale, fruit de concepts religieux contestataires, qui firent de la sobriété une règle de vie qui dicta un ordre monastique du XIe siècle. Un imposant complexe que j'avais longé à vitesse réduite pour en apprécier davantage la silencieuse beauté. Sa pierre blonde ne m'avait toutefois pas laissé indifférent, malgré mon affection quasiment proche du zéro pour la religion, à l'origine d'ailleurs de ce joyau architectural. Par ses dimensions, l'abbatiale seule dominait les bâtiments qui lui étaient attachés. Bien que l'ayant remarqué à de multiples reprises lors de mes escapades berruyères, je n'avais pas estimé alors prioritaire de la visiter, ni même d'approfondir son histoire, persuadé que sa reconversion en espace culturel avait dû la vider de son âme. Et pour être honnête, je ne suis pas certain qu'une seule virgule de mon temps lui aurait été consacrée si les légatis n'avaient pas assiégé ma vie. J'avais donc laissé mon véhicule sur le parking d'appoint près du bâtiment d'accueil. Ce dernier était à l'origine un dortoir pour les ouvriers bâtisseurs, et de par sa fonction d'hébergement, elle émergeait des terres au-delà des portes de l'abbaye elle-même à une cinquantaine de mètres. Il ne me restait plus qu'à attendre. Encore 7 minutes. Même en marchant lentement jusqu'à l'entrée, ça ne prendrait jamais ces 7 minutes. Je fus surpris par la propreté et la netteté des abords, comme si un jardinier les entretenait tous les matins. Oh, je l'imaginais pulvériser de l'alcool sur les vitraux, puis une petite brosse pour débarrasser les pierres des mousses et lichens en tout genre. Puis je replongeais dans mes souvenirs de la semaine. Je comprenais ce que j'avais découvert, mais inconsciemment, j'opposais encore une certaine résistance à ces nouvelles données qui dérangeaient mes vieux schémas mentaux. Frayeur, conflit, tension, despotisme, tristesse, déception, anxiété, phobie, laideur, beauté, monstre, chat, douceur, gratouille. J'inventoriais les mots suscités par mes bulles d'émotion. Tout était si simple, mais si complexe à la fois. Plus que 3 minutes. Bon allez, j'y vais. Je verrouillai le véhicule et me dirigeai vers l'accueil. Je toquai avec fermeté sur la massive porte en bois, mais n'eus pas à attendre longtemps. Je fus accueilli sans même avoir eu besoin de me présenter. « Bonjour, monsieur, entrez, je vous en prie. Il fait meilleur dedans que dehors. Moi, je sais qui vous êtes. » Je surveillais votre arrivée depuis l'étage. Je suis le gardien des lieux. Le père nous a prévenu de votre intérêt pour le grand art cistercien et votre visite nous honore. Sauf que je ne développais aucun intérêt pour l'art cistercien. Le gardien se trompait-il de personne? Le bureau d'accueil qui servait de billetterie était moderne mais accueillant. Entre le lecteur de cartes bleues et les murs dépourvus de figurations, la vaste pièce regorgeait d'ouvrages et d'objets divers destinés à renforcer le recueillement culturel, sous un éclairage doré mais chaleureux du plus bel effet finalement. Des reproductions de tableaux, des tapisseries et des meubles rustiques habillaient cet endroit, conçu pour entretenir l'ambiance sobre d'un mode de vie en profond décalage avec notre société de consommation. Hormis l'abbé et moi, Nul ne semblait connaître les véritables raisons de ma visite ici. Pas même Johanna, qui ne prêta pas vraiment attention à mon arrivée, trop préoccupée par le classement en rayon d'une pile de livres tout juste sortis de leur film plastique. Et je ne lui en voulus pas, bien entendu. Le gardien manifesta, quant à lui, une hospitalité irréprochable. Les visites ne commencent que dans une heure, monsieur, c'est pourquoi nous sommes fermés. Mais je crains que la météo peu clémente ne nous amène pas plus de curieux pour ce week-end. N'hésitez pas à jeter un œil sur les ouvrages que nous éditons. Je vais vous chercher le catalogue de la saison culturelle. Ne bougez pas. Finalement, je réussis quand même à en placer une. Écoute, monsieur, je vous remercie pour votre accueil. Vous êtes formidable. Une autre fois, je serai heureux d'assister aux manifestations que vous organisez, aucun souci, mais... Là, aujourd'hui, le père abbé est un homme réputé, semble-t-il, pour sa ponctualité. Peut-être pourriez-vous me dire où je peux le trouver ? Oh oui, bien entendu, monsieur, pardonnez-moi. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire jusqu'à lui. Le gardien me fit traverser la spacieuse et verdoyante cour qui séparait l'abbaye de l'ancien dortoir des ouvriers. Nous entrâmes par la porte du cellier, le premier bâtiment rencontré derrière l'accueil. Sans nous attarder sur le magnifique pressoir à vin du XVIIIe siècle exposé sur la droite, nous traversâmes la première pièce pour arriver dans la galerie ouest du jardin du cloître, le cœur carré du complexe monastique où les moines d'alors se retrouvaient là après l'office. Depuis cet endroit, on accédait aux différentes salles mises à disposition de la communauté pour leur vie quotidienne. Les voûtes d'ogives et les larges arcades où s'alignaient des arcatures au tympan évidé d'une rose caractérisaient l'architecture captivante de cet espace à ciel ouvert. Un encouragement à la méditation sur les événements et les personnages dont les pierres furent témoins. Le gardien m'orienta vers l'allée sud qui disposait d'un passage pour l'accès au centre du cloître. Et au milieu de ce cloître, un vieux puits fleuri, à quelques mètres duquel un mannequin affublé d'une tunique et capuche blanc cassé d'ailleurs, nous tournait le dos. Oh, une mise en scène efficace, mais bon, qui véhiculait un petit côté mystique auquel j'étais assez réfractaire. Voilà, monsieur, je vous laisse ici. Le père abbé vous rejoindra dans un court instant. Très bien, merci. Je l'attends, merci, c'est gentil à vous. Vous êtes très efficace, votre accueil est très chaleureux, c'est gentil tout plein. Je vous promets de repartir avec de la documentation en fonction de ce que vous me conseillerez. Oh, vous m'envoyez ravi, monsieur. Permettez-moi de vous préparer un petit florilège de nos meilleurs ouvrages sur le mouvement cistercien. Je vous remettrai tout cela avant votre départ. Oh, si je n'étais pas présent, adressez-vous à Johanna à l'accueil. Considérez cela comme un cadeau des gardiens de l'abbaye que votre civilité ne pourra refuser. Soit le gardien crut et qu'il s'adressait à un ministre, soit son hospitalité était réellement exceptionnelle. En même temps, il était un petit peu payé pour. Je regardais le gardien s'éloigner jusqu'à sa sortie du cloître pour me laisser seul avec ce fichu mannequin. Le cadre silencieux m'oppressait et le froid n'aidait pas trop à me tranquilliser. Alors je fus juste rassuré par le soin apporté à l'entretien des lieux. Aussi, le coin était aussi bien entretenu que l'extérieur d'ailleurs. Aussi, dans le pire des cas, si je devais mourir gelé ici, bon, on me retrouverait après la fonte des neiges. Décidé à meubler l'attente par autre chose que l'ennui, je me dirigeais vers mon muet compagnon et tentais de communiquer avec ce truc en plastique en lui donnant une bonne tape dans le dos. « Et toi, bonhomme, t'as pas froid comme ça ?» Le mannequin bougea la tête. Surpris par le mouvement, je reculais. C'est alors que ce que je pris jusqu'à maintenant pour un objet inerte se retourna, me tendit la main, paume vers le haut, et entama la conversation. Oh, avec cette tunique, je ne risque pas le coup de froid. Votre ponctualité m'honore, Frédéric, cher ami, heureux de faire votre connaissance. Oh, bonjour, monsieur, mon père, Frédéric. Tout aussi honoré de vous rencontrer. Oh, si mon nom germanique reste difficile à prononcer, restez sur monsieur et épargnez-moi ce titre ronflant de père que je réserve au protocole. En plus de sa voix grave et posée, sa poignée de main ferme me transmit un message d'ouverture et d'apaisement. Mais son apparat me troublait quand même un peu. Excusez-moi, monsieur, si je peux paraître très indélicat, mais votre capuche est plutôt déroutante. Enfin, j'ai l'impression de m'adresser aux membres d'une organisation, on dira, discrète. Enfin, vous me mettez un petit peu à l'aise, mal à l'aise. Moi, soyez sans crainte, c'est juste un vêtement traditionnel qui avait la cote bien avant l'invention des parkas. Puis, dans l'abbaye où j'officie, nous perpétuons cette tradition vestimentaire et nous ne nous faisons plus peur depuis très longtemps. Bon, j'admets que ce n'est plus à la mode, mais aujourd'hui, cette capuche me protège du vent et du froid. Bon, et c'est d'ailleurs son unique intérêt. Et puis, je me promène rarement avec en public. Mais c'est du polaire, vous savez. Les bons ministres religieux ne refusent pas le progrès, ils sont même à l'origine de bien des ouvrages. À commencer par le fromage, que ne refusent pas même les plus athées. Bavard mais chaleureux, l'homme dépassait d'une tête. D'un gabarit moyen, il tranchait avec l'image du moine bedonnant collé sur les boîtes de camembert. Sur son visage imberbe, une large cicatrice en forme de L irradiait la joue droite et aimantait les regards. Une balafre, malgré tout, gommée par un sourire franc qui ne laissait planer aucun doute sur la volonté du personnage d'installer une conversation très amicale. Oh oui, monsieur Frédéric, je reconnais que cette petite mise en scène a dû vous paraître ridicule, j'en conviens. Mais bon, elle me permet d'écouter mes interlocuteurs avant l'heure et de naviguer en fonction de l'image qu'ils cherchent à transmettre. Je vous rassure, vous m'avez fait très bonne impression. Oh, j'apprécie ce compliment, je vous remercie, mais je vous avoue être ici plus par nécessité que par plaisir, vous savez. On m'a envoyé ici pour obtenir des explications sur tous ces événements qui ont jalonné ma semaine, en fait. Et au final, je me retrouve en plein cœur d'une vieille abbaye à parler avec un moine qui aime les farces. Je ne sais pas trop où je mets les pieds, là. Je suis un peu perdu pour tout dire et je compte rester un petit peu prudent sans vouloir vous offenser. Alors, la transition donc est faite entre votre réserve naturelle et ma première question. J'aimerais savoir, Frédéric, comment vous allez ? Je regardais le sol pour chercher mes mots. Oh, globalement, je me plains pas. Hein. Le froid n'est pas trop froid. Hop ! Vous n'avez pas saisi ma question. Comment vous sentez-vous ? J'eus un moment de flottement avant de réaliser ce qu'il cherchait à savoir. Sans aucun lien avec la température d'ailleurs. J'interprétais plutôt son insistance comme une volonté de court-circuiter les formules alambiquées pour atteindre l'essentiel. Ah, d'accord. J'ai compris ce que vous me demandez. Eh bien, écoutez, je digère. Je digère, à mon rythme, mais je digère. Je comprends maintenant ce qui se passe et la nature de ce que j'ai découvert, mais j'ai encore un petit peu de mal à me remettre de la violence avec laquelle j'étais confronté à tout ça. C'était un peu particulier, hein, je ne vous le cache pas. Mais bon, je ne m'inquiète pas outre mesure, le temps éliminera mes dernières résistances, je pense que ça passera vite. Bien, vous avez compris le sens de ma question. Allez, venez. On va bouger pour nous réchauffer. L'abbé me fit ressortir du cloître par l'allée sud, resté sans protection contre les intempéries depuis l'effondrement de sa voûte au 19e siècle. Puis il m'invita à le suivre dans le bâtiment qui accueillait le réfectoire. Une pièce qui en imposait avec ses 9 mètres de hauteur de plafond et sa voûte d'ogive dont les retombées prenaient appui sur une file de 3 colonnes lisses. Éclairé par de hautes lancettes, cet espace imposant témoignait en silence du respect qui était jadis accordé aux exigences de la vie quotidienne, mais aussi et surtout d'une volonté de porter l'architecture vers une dimension divine. À côté, la cuisine exiguë passait pour un placard à balai. Malgré le grand cubage de l'endroit, le chauffage était particulièrement efficace et l'abbé ne jugea plus indispensable le port de la capuche. Voilà, mon vieux crâne dégarni est plus à l'aise avec cette douceur, et je ne vous ferai plus peur avec ma capuche. L'abbé marqua un arrêt, puis contempla la voûte. Moi, je laisserai la littérature que vous offrira le gardien vous enrichir sur l'histoire de ce lieu, mais saviez-vous que cette abbaye a été le théâtre d'événements surprenants que ne rapporte aucun ouvrage public ? Mais... Excusez-moi, comment être certain de leur authenticité alors si aucun livre n'en parle ? Frédéric, vous n'avez pas écouté. J'ai parlé d'ouvrages publics. Les livres et les manuels historiques ne consignent pas toute l'histoire du monde, cher ami. Ils ne rapportent qu'un condensé académique et consensuel d'instantané de l'histoire. Oh, certes suffisant pour se faire une idée générale des sociétés et des mentalités qui nous ont précédés, mais bien insipide pour le curieux qui réclame bien plus que de sables raccourcis. Et encore, ne s'agit-il que de l'histoire de surface? Et vous parlez de l'histoire de Noirlac, en lien avec les Legati? Absolument, cher ami. Alors, j'apprécie votre résolution d'entrer dans le vif du sujet, nous gagnerons du temps. Vous savez que, dès sa fondation, l'abbaye a joué un rôle fondamental dans la protection de ces individus aux facultés exceptionnelles. Les gardiens de la connaissance avaient compris depuis longtemps la place des Legati sur la planète. Oh, aujourd'hui, cette abbaye n'est officiellement plus qu'un temple culturel, mais hors de la vue des badauds, il subsiste une activité à laquelle les Legati vous convieront le moment venu. Mais je reviendrai sur le passé de Noirlac tout à l'heure. Notre conversation sera malheureusement écourtée. Je suis soumis à des impératifs et je dois repartir d'ici quelques heures. Ma venue ici s'est faite de façon précipitée. Mais je devais vous rencontrer avant, afin de vous informer sur l'essentiel. Et c'est l'appel du proviseur qui a précipité votre venue ? Bon, ma venue était de toute façon inéluctable, mais lorsque votre proviseur m'a appelé en urgence, dès qu'il a compris que les événements allaient se précipiter, vous accompagner dans votre nouvelle fonction devenait prioritaire. Après mon arrivée à Noirlac hier soir, j'ai reparlé avec lui au téléphone. Oh, il m'a brièvement exposé les faits. Je suis un habitué à ce genre de situation. Les événements que vous avez traversés ces derniers jours ne sont pas marginaux. Ce n'est que leur soudaineté à vos yeux qui les a rendus terrifiants. Et je vous prie de croire que j'en suis profondément désolé, Frédéric. J'ai donc arrêté tout ce que je faisais, et j'ai attendu le dégagement des voies pour rejoindre Noirlac au plus tôt. Mais je pense que je devrais vous remercier alors pour cette disponibilité, en espérant que je ne reparte pas d'ici avec plus de questions que de réponses. Cher ami, chacune de vos questions trouvera sa réponse, je m'y engage. Maintenant, j'ai besoin de connaître un détail important vous concernant. Dites-moi, quels sont les événements avec lesquels vous avez éprouvé le plus de difficultés à composer cette semaine ? Oh, alors ça c'est très facile. J'essaie juste de me faire à l'idée que les monstres existent. Voilà, c'est pas aussi facile que je l'aurais cru encore hier soir. Alors je m'intéresse à la science, à la nature et tout ce truc, je suis un curieux de la vie en fait, hein. Mais ce que j'ai vu cette semaine, franchement ça me dépasse encore un petit peu. Avant hier soir, j'avais deux Legati. Avant-hier soir, j'avais deux Legati transformés devant moi, en train de jouer dans un couloir. Non mais sérieux, ils étaient gentils et effrayants à la fois. Je sais même plus si je les ai vraiment vus, j'ai halluciné. J'ai l'impression d'être prisonnier d'un rêve bizarre. C'est le gros embouteillage dans ma tête. Vous en pensez quoi de tout ça ? Mais Frédéric, j'en pense que tout cela est parfait. Le temps d'assimilation diffère selon les meneurs. Hein, vous êtes dans la bonne moyenne. Même dans la moyenne haute, je dirais. Ce n'est qu'une question de jours avant que votre bouchon se résorbe. Votre cerveau a reçu un flux de données totalement inhabituel que votre subconscient a refusé. Alors le conflit que vous vivez n'est qu'une réaction que vous vivez, n'est qu'une simple réaction chimique naturelle, une protection mise en place par votre inconscient. Alors ne vous inquiétez pas. Donc vous me confirmez que je dois juste être patient et laisser ma cervelle se débrouiller avec toute cette mélasse ? Mais c'est correct. C'est correct. Dites-moi, est-ce que vous aimez les animaux ? L'abbé prenait plaisir à passer d'un sujet de conversation à l'autre sans s'attarder sur les transitions. Bah écoutez, j'aime les animaux dans le sens affectueux. Oui, j'aime les animaux. Entendons-nous bien, Frédéric. J'entends pas les animaux entourés de champignons dans une marmite, on est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. J'aime bien surtout les chats, en fait. Les chats. Et pourquoi donc ? Bah, c'est tout mignon, c'est tout doux à caresser. À la fois, c'est vrai, c'est indépendant, mais bon, ça recherche la compagnie des humains. Puis surtout, un félin, c'est magnifique. Il paraît que Dieu aurait créé les chats pour que les humains puissent caresser des félins. Ah, donc vous aimez les monstres. Oh, un chat n'a rien d'un monstre, hein. Il suffit de voir l'œil que ça vous fait quand ça a envie d'un câlin. Moi, bon, vous savez, Frédéric, la notion de monstre n'est qu'une simple question de point de vue. Pour une souris, un chat est une créature sadique et sanguinaire. Un tueur en série, sans état d'âme, qui aime torturer ses victimes avant de les dévorer. Mais c'est pourtant ce redoutable prédateur que vous trouvez mignon et magnifique. Et même aux yeux du monstre, le normal peut être monstrueux. Mais pour aller plus loin, dans un sens métaphorique, pour le vide, bah la matière est aussi un monstre. Avez-vous eu peur des Legati? Avant de les voir entièrement, oui. Et même quand j'ai vu Kevin entier, oui aussi, un petit peu, mais moins quand même. Mais j'avais été préparé par Mathilde, c'est l'assistante sociale en fait. Elle est au courant de l'existence des Legati. Elle m'avait préparé pour les regarder autrement, donc c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Ah oui, Mathilde. Une femme au parcours exceptionnel qui lui a permis d'aider plus d'un Legati à s'accepter. Vos nouveaux protégés y compris d'ailleurs, quoique de façon moindre puisqu'ils sont arrivés dans la région tout à fait conscients de leur nature. Rappelez-moi leur prénom déjà. Guilhem et Kevin? Guilhem et Kevin, c'est bien d'eux. Il y en a un troisième aussi, c'est Lewis. Oh, j'en ai entendu parler par les deux autres, mais je n'ai pas encore eu le plaisir d'être présenté. Oh, vous savez, c'est un garçon timide, qui l'année dernière encore avait un peu de mal à accepter ce que la nature lui a offert. Mais il va mieux maintenant, enfin du moins c'est l'impression qu'il me donne. Puis il me l'a dit aussi qu'il allait beaucoup mieux. Ah oui, les premiers regards portés sur les Legati et parfois sur les Legati, par les Legati sur eux-mêmes ne sont pas toujours aussi doux que celui porté par Mathilde sur son Nicolas. Un bon moyen de vous libérer de la peur irrationnelle et de vous détourner de tout ce qui suscite une émotion destructrice, c'est de vous libérer de cette peur. La libération de la peur ne pourra arriver que si vous arrivez à contrôler vos émotions. La peur sert à se protéger de dangers inconnus, mais si c'est elle qui guide votre découverte de l'inexploré, alors elle est malsaine. Ne permettez pas aux distractions modernes de contrôler vos émotions, et encore moins de les laisser développer une crainte injustifiée envers les Legati. Donc ça veut dire, en ce qui me concerne, plus de cinéma ou de films d'horreur. Moi, bon, vous savez, cher ami, le cinéma véhicule bien des messages pertinents pour qui sait les percevoir. Aussi, ne vous interdisez rien. Mais filtrez vos émotions, opérez un contrôle conscient pour que ces émotions ne vous déstabilisent pas. Sinon l'univers des Legati vous apparaîtra toujours terrifiant. Ah, parce que je dois m'attendre à plus de surprises, à des nouvelles découvertes les concernant. Mais cher ami, chaque monde a son mode de fonctionnement et ses énigmes, et les Legati ne font pas exception. Fin de la lecture pour ce soir. Et voilà, nous sommes arrivés au bout. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors, c'est vrai qu'en ce sont uniquement des discussions comme ça, ce n'est pas toujours évident. Et puis, comme je n'ai pas le don de prendre des voix différentes, j'espère quand même que vous arrivez à suivre. Demain, alors la rediffusion donc sera disponible à partir de dans quelques minutes, hein, tout simplement. Les autres rediffusions à la demande également sont disponibles déjà depuis le début et elles seront toujours disponibles. Et sous peu, elles seront également disponibles en podcast directement sur le site exilium.frédéricbellec.fr. Comme ça, vous pourrez réécouter si cela vous chante à tout moment. Allez, je jette un petit œil à vos messages. On n'est pas en retard aujourd'hui, hein. Il est 30 secondes en dessous de 19h. Alors, Mélanie, donc, qui m'a fait un grand coucou et à qui je souhaite un bon coucou également. Deuxième coucou d'ailleurs. Marie-Madeleine, bonsoir Marie-Madeleine, et merci également pour ton appréciation de ces lectures. Mélanie, une deuxième Mélanie. Hello, je te fais un grand hello. Merci Mélanie d'être passée. Valérie qui me fait un grand CC, qui arrive en retard. Bah ouais, franchement, c'est pas raisonnable, t'as tout loupé là. Faut que tu fasses tout en replay. Allez, merci d'être passé à me voir ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis vous renouvelle surtout mes voeux de prudence, de sauvegarde, parce qu'on est en période de, on va dire ça, pré-déconfinement. On pourrait très rapidement, même si c'est vrai, peut-être dans le centre France, on n'est pas trop touché. Mais la prudence est de mise, il suffit d'une personne pour nous contaminer, donc on reste prudent, il y a des gestes barrières, il y a des protections que le gouvernement nous demande de respecter, même s'il a beaucoup pataugé dans sa façon de présenter ses méthodes de protection, mais peu importe, on y est, donc on se balade, le masque, on va dans un magasin, le masque, on se bouge un coude, faites ce que vous voulez, mais soyez prudent dans vos contacts avec les autres personnes que vous croisez. C'est tous les conseils que j'aurai à vous donner pour ce soir, et je vous dis à demain, 18h30. Donc pour la seconde partie du chapitre 11. Je vous embrasse tous, portez-vous bien, à demain.